La fin du désert, point d'interrogation. Et on va voir si c'est la fin du désert ce matin. C'est pour cela que nous allons prendre la lecture dans le livre de Josué. Livre de Josué au chapitre 1er. Josué 1er, nous lirons les 9 premiers versets. C'est un texte que nous connaissons tous, bien entendu. Mais chaque fois, il peut nous apporter quelque chose de différent pour nos âmes. Josué, chapitre 1er. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, et assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort, maintenant lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la mer Méditerranée, vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné ? Fortifie-toi et prends courage, ne sois pas effrayé, ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. C'est la fin d'un épisode tragique de la vie du peuple d'Israël. Un long cheminement au travers du désert. Et on pourrait se dire, sont-ce là la fin des ennuis pour ce peuple ? Certainement pas. La vie sur terre, frères et sœurs, est une succession de temps forts et de temps faibles. Vous n'allez sûrement pas me contredire là-dessus. Mais pour le peuple d'Israël, c'est la fin d'une période difficile dans leur vie. Si vous le voulez, revenons quelques instants en arrière dans la vie de ce peuple. Pourquoi cette longue période d'errance dans le désert ? Nous voyons cela dans le livre des Nombres, dans le chapitre 13 et 14. Moïse avait envoyé des explorateurs, des espions, pour visiter le pays de Canaan, afin de voir comment ce pays était, afin de voir de faire une topographie du pays, voir les fortifications, voir les beautés, voir les ressources naturelles de ce pays. Et bien entendu, les 12 espions sont rentrés, vous le savez bien, mais dans les 12, 10 de ces espions ont vraiment semé le trouble au sein du peuple d'Israël. Ils ont parlé de tout ce qui était négatif dans le pays de Canaan. Bien sûr, il y avait des choses extraordinaires, ils le disent, mais les habitants de ce pays leur paraissaient des géants. Ils étaient pour eux, les Israélites étaient comme des sauterelles devant ces géants du pays de Canaan. Et bien sûr, ils ont semé le trouble et le peuple a commencé à craindre, à se révolter, à regretter d'être parti du pays d'Égypte. Deux seuls se sont levés contre cette opposition, c'est Josué et Caleb, mais rien n'y fait. Le peuple d'Israël ne veut pas entrer dans le pays promis, et Dieu est obligé de punir son peuple, nous le savons, et à cause de cette désobéissance, ils ont erré pendant 40 ans, 40 années, de désert, faisant de ce peuple un peuple de nomades, alors qu'il aurait pu entrer dans le pays de la bénédiction. Ça, c'est le résultat, c'est le fruit de la désobéissance du peuple de Dieu envers son Dieu. Dieu ne pouvant pas laisser son peuple impuni, et ce peuple qui rejette constamment Dieu, qui se révolte, n'en voulant faire qu'à sa tête, eh bien, Dieu doit intervenir et faire payer chèrement cette désobéissance au peuple d'Israël. Sans vouloir jouer au prophète de malheur, Dieu m'en garde, nous pouvons constater que ce que nous vivons depuis le début de cette pandémie, c'est un peu une sorte de traversée du désert que nous vivons. Nous vivons des temps difficiles, des temps d'errance et d'isolement. Il y a beaucoup de gens qui n'ont plus vu leurs enfants pendant des mois. Et ils ont été cloîtrés chez eux, ils ont vécu des moments très durs. Et que dire aussi de ces derniers moments que nous vivons actuellement, et que nous vivons encore hier soir, il y a encore eu des moments difficiles pour certaines personnes. Nous ne pouvons pas nier, frères et sœurs, que nous vivons vraiment ces temps difficiles que nous promet la parole de Dieu. Oui, nous sommes vraiment en plein dans ces moments difficiles. En tant que chrétiens, nous avons été privés de culte. Il y a très peu de temps que nous pouvons revenir nous rassembler ensemble. Nous avons été privés de communion fraternelle. Pour certains chrétiens, c'était vraiment le désert parce que ils n'ont pas pu vraiment se déplacer et voir personne. Tout le monde n'a pas la chance comme moi de travailler et de pouvoir rencontrer du monde pendant toute ma semaine. Donc, c'est vrai que c'est un temps difficile pour beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens qui ont vécu peut-être dans l'isolement. Et sans me tromper, ce que nous avons vécu et ce que nous vivons encore, c'est une des conséquences de la révolte de l'être humain face à son Dieu. Bien sûr, l'homme se révolte et nous connaissons que quand nous voyons nos contemporains, on maudit plutôt Dieu que de le bénir, que de le crier vers lui. Je ne sais pas si ça ne vous a pas frappé, mais nous avons entendu beaucoup de spécialistes sur les ondes. Les émissions de radio et de télévision nous ont abreuvé de coronavirus à longueur de journée, des émissions spéciales, j'en passe. Et nous avons entendu toutes sortes de spécialistes, de dirigeants politiques ou d'un simple citoyen lambda. Et jamais personne, à part de rares occasions, n'a prononcé le nom de Dieu. On a donné toutes sortes d'explications à tous ces phénomènes, mais personne n'a marqué un temps d'arrêt. J'espère que les chrétiens l'ont fait, ce serait dramatique. Mais pour se poser les questions, de se dire, mais pourquoi tout cela nous arrive? Cette semaine, j'ai une voisine qui est passée à la maison et qui disait à juste titre, quand elle l'a vu face aux inondations, elle me dit, pour moi, il y a quelqu'un là au-dessus qui est fâché. Mais je dis, c'est peut-être mal dit, mais c'est la vérité. On peut dire que il y a une certaine colère de la part de Dieu, malgré que c'est un Dieu de grâce et d'amour, mais l'humanité s'enfonce de plus en plus. Donc, je n'ai jamais entendu une explication, face à tous les spécialistes, une explication biblique, à moins que certains l'ont entendue, mais je n'ai jamais entendu une explication biblique au journal télévisé. On s'est bien gardé d'inviter même une personne religieuse, on ne sait jamais qui nous apporte la poisse, donc vaut mieux ne pas les inviter. Donc on a entendu toutes sortes d'explications scientifiques à ce virus, à ces tremblements de terre, à ces feux de forêt, parce qu'il y en a eu, à ces inondations. Mais personne ne s'est posé la question de se dire, mais est-ce que la Bible n'aurait pas raison de dire que nous traversons des temps difficiles? Que nenni! On a plutôt face à cette situation de désarroi que nous avons traversée, face à la souffrance, face à la mort, face au deuil, on a plutôt entendu des paroles de révolte. S'il y avait un Dieu, il ne se passerait pas ça. S'il y a un Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Où est-il? Il ne s'occupe pas de nous. Il y a eu beaucoup de paroles de haine. Paroles de haine contre les médecins, contre les spécialistes, contre les hommes politiques. Il y a eu de la colère, il y a des manifestations. Il y en a encore eu hier. Toutes sortes de manifestations, toutes sortes de révoltes. Pas un moment on a entendu l'homme se remettre en question sur notre façon de vivre ou sur notre façon de penser. Que du contraire, on s'enfonce de plus en plus dans la haine, on s'enfonce de plus en plus dans la méchanceté. L'homme continue à vivre comme si de rien n'était. Vous avez déjà vu les ours sur la banquise et vous voyez un ours, un pauvre ours blanc qui a sur un morceau de banquise flottante, et c'est un peu l'image de notre génération, c'est un peu l'image de l'homme. Nous sommes sur cette banquise qui est en train de fondre, mais au lieu de crier vers Dieu en disant « recolle la banquise », nous sommes, enfin le monde, j'espère pas nous, mais le monde est en train de haïr et de se révolter contre Dieu et ne pas prendre un temps de réflexion. Et nous voyons que le peuple d'Israël, face à cette désobéissance, a dû patienter pendant 40 ans, afin qu'il puisse malgré tout se remettre en question sur sa vie et sur sa relation avec Dieu. Et si Dieu permet tout cela, je suis persuadé qu'il espère malgré tout une remise en question de la part de l'être humain, afin qu'il prenne conscience que Dieu est souverain face à tous les événements qui se produisent sur cette terre. Et je pense aussi qu'il désire que l'Église du Seigneur, pas simplement l'Église de Blenny ni l'Église protestante, mais l'Église avec un grand E, toute dénomination confondue, quoiqu'il est temps un peu qu'on nous sortions un peu de nos préjugés face aux autres dénominations, que l'Église puisse prendre conscience de ses responsabilités. Et Dieu s'attend à ce que son peuple voit les choses peut-être différemment et que notre relation avec notre Dieu soit changée face à ces événements. C'était l'espoir de Dieu envers le peuple d'Israël. 40 ans d'errance dans ce désert et maintenant le bout du tunnel. Et nous pouvons, c'est vrai, faire un parallélisme avec la vie du peuple d'Israël et la vie de l'Église dans ces temps que nous vivons maintenant. Le désert où la souffrance a régné, certains furent contaminés par plusieurs sortes de maladies, mordus par des serpents. Ils ont connu le deuil, la solitude. Et c'est ce que parfois nous vivons aussi dans ce monde. Oui, frères et sœurs, nous pouvons dire que comme le peuple d'Israël, nous n'avons pas vécu 40 ans d'errance dans le désert, nous avons connu une sorte de désert. Et malheureusement, pas mal de chrétiens, pendant ce temps de confinement, ont peut-être perdu la foi. Peut-être l'éloignement de l'Église, l'éloignement de la communion fraternelle, certains ont défailli dans leur foi. Peut-être ont-ils fait naufrage par rapport à la foi. Prions pour tous ceux qui ont vécu, qui ont mal vécu ce temps de confinement en tant que chrétiens et qui n'ont pas pu vivre une relation personnelle et forte avec Dieu. Mais revenons un peu à notre texte. Nous voyons que le peuple d'Israël est aux portes du pays promis. Fini l'affreux désert, un pays merveilleux s'offre à eux. Le soleil se lève sur un jour nouveau. Fini les terreurs de la nuit. Il y a de l'espoir pour ce peuple d'Israël. Et Josué a été choisi par Dieu pour être à la tête du peuple. Peux-tu l'oublier, ce qu'il a vécu? Oh, je pense que c'est difficile. Il a vu tellement de malheurs, tellement de souffrances, tellement de deuil. Il faut dire que tous ceux qui étaient âgés de plus de 20 ans sont morts. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. Des milliers de personnes sont enterrées dans le désert. C'était la jeune génération qui avait moins de jusque 20 ans que Dieu a permis qu'elle rentre dans le pays promis. Nous rendons compte que Pour Josué, ça a dû être dur. Il a perdu toute sa famille, tous ses amis de son âge. Ils sont tous enterrés dans le désert. Et pourtant, il faut redémarrer. Il faut repartir à zéro. Ne sommes-nous pas, Église du Seigneur, un peu dans cet état, après avoir ramé pendant ce désert de solitude, nous sommes appelés, comme le peuple d'Israël, à conquérir le pays qui est devant nous. Sommes-nous prêts, frères et sœurs, à cela? Sommes-nous prêts à partir? Avons-nous le moral dans les talons face à ce que nous avons vécu, ce que nous vivons encore? Car cet arrêt forcé a peut-être laissé des traces dans nos vies. Pouvons-nous oublier facilement ce long chemin chaotique que nous avons dû emprunter? Mais en plus, nous vivons encore actuellement des temps difficiles. Et notre ami Josué est-il prêt à reprendre le flambeau? Est-il prêt afin d'aller de l'avant? Ah, je suis certain que Josué avait la boule au ventre quand Dieu lui a dit « Moïse, mon serviteur est mort, c'est à toi de reprendre le flambeau. » Car la traversée du désert l'a profondément marqué. La traversée du désert, chers amis, peut nous marquer de deux façons tout à fait différentes. En traversant le désert spirituel, nous pouvons être complètement anéantis en tant que chrétiens. Nous pouvons être anéantis au point de sombrer dans une profonde dépression et nous retrouver dans un gouffre sans fin, sans pouvoir nous en sortir. Si c'est notre cas ce matin, eh bien, ne nous laissons pas abattre. Nous avons lu que Jésus nous laisse sa paix. Il nous laisse son esprit. Il est là présent pour nous relever. Ou alors, certains qui traversent le désert peuvent être boostés d'une façon impressionnante parce qu'ils ne veulent pas sombrer dans cette déprime. Ils ne veulent pas se laisser abattre. Et nous ressortons avec un tempérament de bâton. Frères et sœurs, comment allons-nous réagir après ce long passage à vide? Et Dieu, nous connaissant bien, il connaît aussi l'état du cœur de Josué et il l'encourage par des promesses, lui promettant de belles choses, lui faisant connaître son plan, lui promettant de conquérir un beau pays. Et bien sûr, ça n'allait pas être sans effort. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie assise, mais c'est une vie en marche. Nous devons être en marche. Nous devons être en marche, nous ne devons pas être statiques. Certains croient que la vie chrétienne, eh bien, on se convertit et puis tout va bien et tout va se dérouler sans problème. Non. Mais Dieu l'encourage, il lui dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Dieu lui promet qu'il ne l'abandonnera pas. Et ce même Dieu qui s'adressait à Josué s'adresse encore à nous ce matin, nous disant de reprendre la route, car il est à nos côtés. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, nous promet Jésus. Mais Josué, fortifie-toi et prends courage. Sois assuré, je te donnerai des forces pour ta route. Moïse lui avait dit, avant de mourir, il lui avait donné ce même encouragement. Nous le trouvons dans Deutéronome chapitre 31, versets 7 et 8. Moïse réalisait combien la tâche serait dure pour Josué, parce que ce n'était pas un peuple facile. Et cette parole du Seigneur, le Seigneur la prononce encore pour le peuple de Blény, pour l'église de Blény. Il lui dit, et il nous dit ce matin, c'est pas moi qui le dis, fortifie-toi. J'ai un plan pour toi, pour ta vie personnelle. J'ai un plan pour l'Église. Alors ce matin, à la place de Josué, mettons chacun notre nom et entendons la voix de Dieu nous dire cela. Et Dieu le répète à Josué, et il répète encore à nous. Il revient à la charge. Peut-être Josué n'avait-il pas compris. Dieu lui dit, seulement, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Dieu encourage Josué à se fortifier. Mais il l'encourage pas simplement par des mots, mais il l'encourage à plonger ses regards dans la loi de Moïse, dans la parole de Dieu. Et le Seigneur, ce matin, nous encourage, chacun d'entre nous, à nous fortifier, mais surtout à plonger nos regards dans la parole de Dieu. Et on en revient chaque fois à ça, la parole de Dieu. Plonger nos regards dans la parole de Dieu, qui est notre boussole, qui est le guide de notre âme. Nous en revenons toujours à ce principe, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas nous fortifier autre part que dans la parole de Dieu. Oui, la communion fraternelle est importante. C'est très important de nous réunir et nous sommes heureux de nous revoir après autant de mois d'absence. Elle nous a manqué, cette communion fraternelle. Mais notre relation personnelle avec notre Dieu est plus importante et c'est la clé de la réussite. Notre vie intime avec Dieu. Notre relation personnelle avec notre Dieu, c'est la clé de la réussite. C'est elle qui nous tient debout. Et personnellement, c'est ce que j'ai fait pendant ce temps d'éloignement, c'est de vraiment prendre ce temps quotidiennement dans la parole de Dieu et dans la prière, afin qu'il nous parle. J'espère que chacun d'entre nous a fait cela afin de tenir bon dans les temps d'épreuve. À tenir bon, car cette parole nous guide et nous empêche de nous égarer. Car si nous avons diffusé de très bons messages sur notre site, il y a eu des charlatans et des gens qui ont diffusé n'importe quoi. Et c'est toujours dangereux quand on manque de maturité ou quand on ne plonge pas assez nos regards dans la parole de Dieu d'écouter du n'importe quoi. Alors, pour notre survie spirituelle, il est nécessaire, même maintenant que nous avons retrouvé la communion fraternelle, de plonger quotidiennement nos regards dans la parole de Dieu. Et bien plus encore maintenant que nous devons reprendre cette route, nous devons regarder ce que Dieu nous dit. Et Dieu continue, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Voulons-nous la réussite ce matin dans notre vie personnelle, dans notre vie chrétienne, dans notre vie d'église? Il n'y a qu'une seule solution, c'est la parole de Dieu. C'est un entraînement que nous devons avoir. Comme un coureur cycliste doit s'entraîner, nous avons ce même entraînement pour arriver à la victoire. Et l'entraînement, c'est la parole de Dieu. La clé de la réussite pour nous chrétiens, c'est la parole de Dieu. Et Dieu a insisté auprès de Josué. Nous devons vraiment chaque jour prendre ce temps pour méditer et ne pas prendre cela comme une corvée. Comme une corvée. Ah, je dois encore lire ma Bible. Ah, je dois faire mes devoirs de chrétien. Mes devoirs de chrétien. Moi, j'ai des devoirs de vacances, moi, parce que je suis en congé, et j'ai toute une liste à devoir faire, mais le temps n'a pas voulu que je fasse tous mes devoirs de vacances. Hein? Mais ce n'est pas de devoir que lire sa parole, la parole de Dieu. C'est un moment de rencontre avec le Seigneur. Nous devons prendre cela comme, pas comme une corvée, mais comme un moment de réjouissance. Prendre cette nourriture spirituelle qui nous fortifie, qui nous conseille, qui nous empêche de sombrer. Parfois on se pose la question, mais pourquoi y a-t-il tant de défaites au sein du peuple de Dieu? Eh bien la réponse est là, Osée chapitre 4 verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Si l'Église de Dieu connaît parfois l'échec, c'est parce que l'Église manque de connaissance, parce qu'on ne prend plus le temps de s'installer, de prendre la parole de Dieu, de la lire, de prier, afin de recevoir les enseignements du Seigneur. Et Dieu continue, ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé, ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, où que tu ailles. Et Dieu insiste auprès de Josué. Maintenant, ça devient un ordre. Fortifie-toi, ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Il ne faut plus tergiverser. Quand il faut y aller, faut y aller. Josué, t'as pas le choix. Dieu le rassure. Ne sois pas effrayé, ni épouvanté, je serai avec toi. Dieu ne lui dit pas que tout va aller comme sur deux roulettes. Il ne lui promet pas des roses sans épines. Il lui demande simplement de prendre des forces. Mais il lui promet que partout où il ira, il sera avec lui. Alors réalisons, frères et sœurs, ce matin que le Seigneur sera toujours avec nous. Même si nous croyons qu'il n'est pas là. Même si nous ne le sentons pas. Parce que les chrétiens aiment bien sentir. Ah, oh, j'aime bien sentir la présence du Seigneur. Mais il est là. Il n'y a pas besoin de sentir. Il a promis, il est là. Il n'y a pas besoin de sentir des tremblements, des frissons, d'avoir chaud, d'avoir froid, de transpirer ou de ne pas transpirer. Non, le Seigneur, il est là à côté de nous. Et il nous rassure. Frères et sœurs, le Seigneur nous demande aussi, comme à Josué, de reprendre la route. Il connaît nos faiblesses, nos peurs, nos craintes, nos doutes, nos angoisses, notre manque de foi. Il connaît tout cela, frères et sœurs. Mais il nous fait la promesse d'être à nos côtés. Il a été avec nous pendant cette pandémie, il sera avec nous encore maintenant. Il nous dit ce matin, si nous sommes dans la crainte, si nos yeux sont remplis de larmes, si notre morale est au plus bas, si nous sommes découragés, ben je suis à côté de toi, je ne t'abandonne pas. Je suis assis à côté de toi ce matin, je suis présent dans ce lieu. Il nous dit, ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi. Et prends courage, ne sois pas effrayé, ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, où que tu ailles. Prenons les promesses du Seigneur, saisissons-les. Oui, nous pouvons être effrayés, nous pouvons être épouvantés, car nous avons vécu, parce que nous avons vécu, mais ne restons pas assis. Levons-nous, prenons la main que Dieu nous tend, il ne nous abandonnera pas. Alors croyons en ses promesses et allons de l'avant. Et disons comme Néhémie, quand il allait reconstruire la muraille, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Si nous prenons cette résolution de nous lever et de bâtir avec Dieu, nous allons être fortifiés. Si nous restons dans notre fauteuil, nous risquons de nous endormir. Et ma femme en est témoin, dès que je m'assieds dans le fauteuil devant la TV, elle me parle et je suis embarqué et je dors. Et c'est pas ça que le Seigneur veut. C'est pas qu'on peut pas s'endormir dans le fauteuil. Hein. Ne culpabilisez pas le jour où vous êtes assis dans votre fauteuil et que vous vous endormez. Hein. Non. Mais notre fauteuil spirituel, je parle. Ne nous endormons pas. Levons-nous. Levons-nous. Et bâtissons. Voilà la résolution qui nous fait avancer. La résolution nous donnant du courage. La résolution qui fortifie. L'Église. Ce n'est pas en restant assis au bord du chemin que nous serons forts. N'oublions jamais ce que Dieu a dit. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Nous ne devons pas être des chrétiens de pacotille. Nous devons être des chrétiens puissants. Nous devons saisir la puissance qui est en nous. Non pas pour jouer comme Samson à vouloir démolir des édifices, c'est pas cela que Dieu, mais Dieu veut que cette puissance qui est en nous nous donne la force pour traverser les moments difficiles. Voilà ce que Dieu veut pour son peuple. Saisissons la force et la victoire en Jésus-Christ. Comme je l'ai dit, j'ai donné comme titre à cette méditation la fin du désert, mais avec un point d'interrogation. Et si le peuple d'Israël est sorti du désert, malheureusement, le peuple d'Israël a vécu pas mal de déserts, même s'il est, bien sûr, il y a eu des déportations, il y a eu des déserts spirituels, des errances. Pourquoi ? Parce que le peuple de Dieu refusait d'écouter la voix de Dieu. Et l'Église n'est pas mieux que le peuple d'Israël. Quand nous voyons toutes sortes de théologies qui traversent nos églises, eh bien, faisons attention de ne pas nous retrouver en errance dans un désert spirituel. N'oublions jamais ce que nous lisons dans le dernier verset du livre des Juges. Et nous comprenons pourquoi le peuple d'Israël et pourquoi l'Église peut vivre des temps d'errance spirituelle, de désert spirituel. Le dernier verset du livre des Juges nous dit ceci. « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est terrible. Et n'est-ce pas un peu l'image de notre monde maintenant ? On refuse Dieu, mais on vit comme bon nous semble. Et malheureusement, ce temps atteint l'Église. Et l'Église, des fois, vit comme si Dieu n'existait pas, comme si Dieu était mort. Elle fait ce que bon lui semble. Alors revenons à la parole de Dieu. Le peuple d'Israël faisait tout ce qui lui passait par la tête. Et beaucoup de chrétiens le font encore. Faut-il s'étonner alors, frères et sœurs, de continuer à vivre dans le désert et dans le désert spirituel? Quelle réponse pouvons-nous donner? Il y a plusieurs déserts. Certainement, notre comportement, notre attitude peuvent nous conduire dans un désert. Le peuple d'Israël en a vécu pas mal. À nous, frères et sœurs, de vivre une vie de sanctification, une vie qui honore notre Dieu. Et je vous laisse ces mots, fortifie-toi et prends courage. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons ce matin pour ta parole. Nous te bénissons, Seigneur, parce que ta parole nous reprend, ta parole nous enseigne, ta parole nous montre comment nous devons vivre. Et Seigneur, nous te prions, Seigneur, de nous aider à nous sortir du désert, à ne pas retomber chaque fois dans nos travers, Seigneur. Aide-nous à lire ta parole, la méditer, la faire nôtre. Que cette parole soit notre guide, notre boussole, Seigneur, afin de ne pas nous égarer. Bénis ton peuple, Seigneur. Tu nous dis, fortifie-toi et prends courage. Ce matin, Seigneur, encourage et fortifie ceux qui sont dans l'angoisse, ceux qui sont dans la crainte, ceux qui sont dans la peur, Seigneur. Et s'il y en a parmi nous, Seigneur, oh, que ces frères et sœurs se tournent vers toi et te fassent confiance. Seigneur, bénis ton Église, encourage ton Église, fais grandir ton Église, donne-nous ta force. Amen.